France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Jérôme Ragano à la console. Évoquer celle qui aimait se définir comme une théoricienne de la politique en 50 minutes tient du pari. Nous ne parlerons donc que de certains aspects de sa personne et de son œuvre. Hannah Arendt, une femme du XXe siècle, elle était née en 1906, et si sa pensée s'est heurtée aux atrocités de l'histoire, elle s'en est aussi nourrie. La lire aujourd'hui est précieux, si au moins nous retenions un peu de sa réflexion.
L'heure philo. Patricia Martin, sur France Inter.
J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral ?
Would you say that all the people whom I take into account throughout the middle age, moi je me sers où je peux, and I take whatever I can.
L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char.
Notre héritage n'est garanti par aucun testament.
N'est précédé par aucun testament.
This means we are entirely free.
Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Ne pas réfléchir, c'est plus dangereux que penser. Martine Lebovici et Marina Touyès sont nos invités pour nous aider à découvrir ou redécouvrir celle que l'ardent courage de vivre n'aura jamais quittée. Martine Lebovici, vous êtes maître de conférences émérite de l'Université de Paris, membre du laboratoire de changement social et politique. Vous avez co-dirigé un numéro de l'ERN consacré à Arendt. Marina Touyès, vous êtes vous diplômée en sciences politiques. Vous avez beaucoup travaillé sur les années 1930-1940, ainsi que sur l'histoire du racisme et de l'antisémitisme en France et en Allemagne, et vous publiez aux éditions L'Échappée un essai intitulé « Paria, paria au pluriel, Hannah Arendt et la tribu en France, 1933-1941 », un livre du reste dont vous avez écrit la préface, Martine Lebovici. C'est une période de la vie d'Arendt, donc de 1933-1941, qu'elle a peu racontée, et on a en général davantage parlé de son exil aux États-Unis que son exil à Paris. Donc elle est contrainte, on en devine les raisons, de fuir son pays d'origine. Et elle dit, alors malgré évidemment les atrocités de l'époque qui la préoccupent ô combien, elle dit que ce furent 8 longues années assez heureuses passées en France. Martine Lebovici. Bon, qui veut répondre ? Laquelle des deux ? Allez-y, on tire au tour. Ah bah si vous ne dites rien, voilà, ça va être compliqué.
Pour vous contredire, c'est moi qui vais répondre. Pour, voilà, tout de suite être
Marina
anticonformiste
Touyès.
Et poser le cadre de cette émission. Oui, elle dit ça. Vous avez raison, c'est assez impressionnant parce qu'elle dit que c'est des années qui l'ont formée. Et qu'elles ont été assez heureuses, elle le dit, le moment est important, c'est en 75, donc peu de temps avant de mourir, donc c'est d'autant plus...
Elle le dit dans un discours. Hein.
Elle le dit à la réception du prisoning, oui, au Danemark, et donc voilà, c'est fort des mots pareils. Alors tout est dans le « assez heureuse ». Pourquoi « assez » ? Le fait qu'elle n'en ait pas parlé, c'est sans doute le rapport de Hannah Arendt à sa vie personnelle, elle était un petit peu contre ce qu'elle appelait l'excessif excessif souci de soi. Elle aimait pas trop s'épancher, elle aimait pas trop...
Elle aimait pas le pathos, d'une manière générale.
Elle aimait pas le pathos, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Elle était, pour elle, si vous voulez, l'exercice de la pensée avait quelque chose de d'émancipateur, de libérateur, et le pathos, c'est un petit peu l'inverse. Maintenant, il y a aussi une raison peut-être plus concrète, qui est qu'après Auschwitz, tout lui a paru sans doute... ses propres souffrances un peu indécentes, un peu en dessous peut-être du calvaire de ceux qui avaient vécu les camps d'extermination et Auschwitz. Donc ça l'a fait aussi peut-être relativiser ses propres souffrances à Paris. Après, dans les lettres, quand même, il y a des détails, il y a des choses. Mon travail, il s'est agi beaucoup d'un travail de puzzle, de retrouver ces petits détails.
D'une minutie absolument incroyable. Mais on voit bien qu'évidemment, mais ça, on va en parler, la vie n'a pas été facile, ô combien. Mais disons que, Martine Lebovici, grâce à l'amitié et grâce à l'entraide entre tout un groupe dont on va parler ce soir, ça a fait que ça a été quand même respirable pour elle. Et puis en plus, elle adorait Paris, hein. Elle aimait la ville.
Respirable.
Peut-être pas d'ailleurs. Non, mais si je dis une bêtise,
je sais pas. J'avais jamais pensé à ce mot pour.
Ouais.
Non, mais ça permettait tout simplement de survivre.
Oui, de survivre.
Hein, de survivre. Mais peut-être je reviendrai bien sur la question du pathos là, parce que ça m'est venu une idée en écoutant. Parce qu'il faut faire attention quand on dit ça, parce qu'on va se dire, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement froid, qui a comme ça, qui a une pensée, une rigueur de la pensée, qui ne fait pas intervenir d'affect. Alors qu'en réalité, l'affect est à la base aussi de la pensée pour Arendt. C'est-à-dire l'exercice de la pensée n'est pas du tout un exercice désaffecté, parce que dans la notion, ce qui compte chez elle, c'est la notion d'expérience, et la pensée doit toujours être liée à l'expérience, c'est-à-dire pas seulement ce que chacun a vécu, mais une expérience qui est prise dans le rapport non seulement avec les autres, mais aussi avec les événements politiques, et l'expérience doit elle-même être réfléchie, et pour réfléchir, il faut prendre aussi un peu de distance avec l'affect qui nous a pourtant orienté vers la chose à penser.
Et la France, parce que c'était quoi ? C'était le pays des Dreyfusards ?
C'est ce qu'elle a expliqué, oui, qu'elle avait pris le chemin de la France. Elle part en août 1933 de Berlin. Elle a été arrêtée en juillet 1933 pour des activités de propagande selon les nazis, c'est-à-dire de documenter l'antisémitisme à l'époque. Et elle reste quand même près de 2 mois à Prague Elle reste 2 mois à Genève avant de se diriger vers la France. Et oui, c'est les armes du sionisme qu'elle a choisies pour combattre Hitler. Elle l'a bien expliqué en disant que quand on est attaqué pour elle, en tant que juif, il faut répondre en tant que juif, qui la font se tourner vers la France, le pays des Dreyfusards, où elle pense qu'elle va trouver des alliés.
Heureux comme un juif en France, hein, c'est ce qu'on dit.
C'est un dicton allemand, oui, qui était très répandu à l'époque. Oui, tout à fait.
Depuis 1931 environ, j'étais intimement convaincu que les nazis allaient prendre le pouvoir. Et je prenais d'ailleurs souvent position sur ces questions en débattant avec d'autres gens. Mais je n'ai commencé à m'y intéresser de façon systématique qu'à partir du moment où j'ai émigré. J'avais de toute façon l'intention d'émigrer. J'ai tout de suite été persuadée que les Juifs ne pouvaient pas rester. Je n'avais pas l'intention de me retrouver en Allemagne comme une citoyenne de seconde zone. Et je pensais aussi que la situation ne pouvait qu'empirer. Le 27 février 1933, il y a eu l'incendie du Reichstag. Il a été suivi, dans la nuit même, par de nombreuses arrestations illégales, ce qu'on appelait les détentions préventives. Comme vous le savez, les prisonniers finissaient dans les caves de la Gestapo ou en camp de concentration. Ce qui s'est passé là était monstrueux. Mais aujourd'hui, c'est souvent occulté par les événements qui ont suivi. Pour moi, le choc a été immédiat. À partir de ce moment-là, je me suis sentie responsable. J'ai réalisé qu'il était impossible de rester spectatrice.
Donc l'incendie du Reichstag, ça a été une bascule hein, pour Hannah Arendt, le Reichstag, donc le Parlement allemand à Berlin, et cet incendie criminel que les nazis ont attribué à des communistes. Elle est donc d'une grande lucidité, elle s'en va, elle sera peut-être toute sa vie, vous allez nous en parler, une exilée, je sais pas, mais est-ce qu'elle l'a, parce qu'elle est en quelque sorte chassée de son pays, elle est chassée de sa langue, et puis partir, ça veut aussi dire laisser des gens qu'on aime sur place.
Oui, et potentiellement aussi les laisser dans l'embarras.
Le danger.
Dans le danger. C'est quelque chose, on le voit aussi chez Heinrich Blücher, qui a laissé sa mère qui était seule. Donc il était, pour lui c'était encore plus prégnant parce qu'il était soutien de famille, alors que la mère de Hannah Arendt...
Blücher, c'est son mari. Hein.
Ce sera son mari, second mari.
Ça a été son
oui, pardon,
mari.
Je pourrais
oui, oui.
expliciter
oui, parce
plus.
Que tout le monde ne le sait pas, oui, absolument.
Oui, c'est vrai.
C'était en fait un communiste, enfin c'était vraiment quelqu'un politique. C'est un animal politique, on peut dire. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Hein
oui, oui. Non, mais c'est intéressant de dire un petit peu qui est qui.
Oui, alors donc. Hannah Arendt, quand elle arrive en France en 1933, elle est mariée. Elle est mariée depuis 1929 à Günther Stern, qui a pris tout récemment le nom de plume de Günther Anders. Et depuis, c'est un philosophe, sociologue très, très connu. Et elle, l'exil parisien, ensemble, va mettre un terme à leur couple qui battait déjà quand même beaucoup de l'aile. Mais leurs rapports vont beaucoup empirer dans cet exil qui va se révéler harassant, très difficile pour les deux, au point d'avoir des difficultés à manger.
À manger, ils ont crevé la faim.
Au début de ce que racontera beaucoup Günther Anders. Donc voilà, ça va finir finalement de les éloigner et Günther Anders finira par rejoindre les États-Unis en 1936, en mai. À peu près au même moment, elle va rencontrer quelqu'un qui va un peu bousculer.
Et qui sera quoi qui, Heinrich Blücher, ça a été quoi? Un alter ego intellectuel? On peut dire comment est-ce qu'on pourrait dire?
Un interlocuteur, en tout cas. Et pour être un interlocuteur de Hannah Arendt, il fallait sa confiance, il fallait aussi... parce que c'était des dialogues exigeants, où on ne disait pas à l'autre ce qu'il avait envie d'entendre. Les interlocuteurs qu'elle avait, c'était ça. Elle a dit, ça a été ma patrie portative, Heinrich Blücher. C'est un peu aussi l'histoire de cet ouvrage. Je suis en train de spoiler, mais les dernières phrases de mon livre, c'est quand Blücher s'en
spoiler,
va.
Spoiler, il fait combien de pages?
Oui, voilà.
Il fait 4
pages. Je raconte
pages,
la fin.
Ça va.
Voilà.
C'est pas grave.
Je raconte la fin, mais au moment où il meurt, elle dira, parfois, rarement, se crée entre deux êtres tout un monde. C'était la seule patrie que nous étions disposés à reconnaître. Ce micro-monde se désagrège quand l'un des deux s'en va. Voilà, il était tout ça.
Alors, cette tribu, moi, je voudrais bien que vous nous la racontiez un petit peu, parce qu'il est beaucoup question du 10 rue Dombasle. Il n'y a pas que là, il y a un petit peu disséminé. Puis, elle a vécu dans différents endroits, Hannah Arendt, dans Paris. Mais ce 10 rue Dombasle, dans le 15e, c'est vraiment l'épicentre de la tribu. Qui vit là et qui vient là en visite? Il y a une plaque. Grâce à vous, je suis passée il n'y a pas longtemps au 10 rue Dombasle, dans le 15e, donc, et il y a une plaque, effectivement. Vous allez nous raconter la plaque. Qui veut parler? Martine Lebedici.
Oui, alors, bon, c'est pas moi qui ai fait tout ce travail là, sur cette fameuse tribu, mais c'est vrai qu'avec le livre de Marina, j'ai découvert quelque chose. Hein, c'est-à-dire, il y avait déjà la biographie d'Elisabeth Jungbrühl. Mais ce que Marina a très très bien mis en valeur, c'est cette espèce de réseau comme ça qui se constituait dans l'émigration, aussi bien l'émigration politique, parce que dans tous ces immigrés, il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils étaient des militants politiques, qui étaient des marxistes, des communistes, des sociodémocrates, tout ce qu'on veut. Et puis il y avait aussi des juifs il y a eu beaucoup de juifs et des juifs qui étaient les deux, c'est-à-dire qui étaient aussi bien des gens qui étaient politisés et aussi des gens qui partaient comme parce qu'ils étaient juifs. Et Arendt, en fait, elle est partie à partir de sa judaïté, je crois.
C'est-à-dire quand elle disait nous, par exemple, c'était nous les juifs, et quand Heinrich Blücher, son mari, disait nous, c'était nous les communistes, non
c'est, je, oui, un peu traîne, dit nous, un peu quand elle dit nous, c'est nous les, c'est les, nous, juifs, ça c'est sûr. Mais je crois que pour revenir à la rencontre avec Blücher, c'est que il lui a fait aussi découvrir tout un monde non-juif, je crois, tout un monde de gens, enfin des marxistes, enfin des communistes dissidents, hein, qui étaient son milieu à lui. Et lui, sans doute, elle lui a fait rencontrer aussi de plus près la politique juive, hein, parce qu'Arendt était impliquée dans la politique juive. Mais bon, et ce que Marina montre très bien, c'est justement ces amitiés qui se nouent entre tous ces gens qui sont dans une situation à peu près la même, et qui en même temps ont une entraide dans cet immeuble absolument extraordinaire qui fait qu'ils peuvent tenir. Le mot que c'est plus que de survivre, je dirais, c'est de tenir, le mot, je crois. Parce que c'est la question que vous posiez sur l'amitié. Et je me demandais quel mot qui c'est on tient, quoi. Survivre, c'est pas vraiment le cas, mais c'est on tient, c'est-à-dire on se garde droit autant qu'on peut, quoi, et on s'entraide.
On tient entre parias qui ont été abandonnés successivement, aussi bien par la communauté juive française d'ailleurs, et puis par la communauté internationale.
Marina oui, Pilles. C'est ça. Le livre, c'est un peu une histoire de trahison, malheureusement. C'est pour ça que dans cette histoire, c'est un peu une tragédie grecque au sens où ils sont d'abord trahis en tant que juifs. Elle l'a dit, un vide s'était créé autour de nous à l'arrivée d'Hitler, donc la population allemande et les intellectuels en particulier les abandonnent. Ensuite, à Paris, ils vont être en but à l'hostilité de la population française. La communauté juive, finalement, va pas se révéler aussi solidaire que ce qu'ils auraient pu attendre.
Il y a ce qu'elle appelle les parvenus. Enfin, c'est pas elle qui les appelle comme ça, mais il y a les parias d'un côté, puisque je reprends le titre de votre livre, et les parvenus. Les parvenus sont les juifs intégrés, en fait.
Oui, alors là, elle reprend des catégories de Bernard Lazare, qui était journaliste au moment de l'affaire Dreyfus. Je vais juste expliquer ce qu'elle entend par là. Je vais juste parler du secours des réfugiés. Et puis peut-être, Martine, tu expliqueras plus précisément paria parvenu ces catégories-là. Ce que je peux expliquer, c'est que les Juifs qui étaient français à l'époque et qu'on appelait israélites, ils étaient à ce moment-là, c'est eux qui vont gérer le secours aux réfugiés allemands ou d'Allemagne, puisqu'il y avait ce qu'on appelait les hosts, c'est-à-dire des juifs de l'Est. Et finalement, il va y avoir ce comité national qui va regrouper tout le secours aux juifs qui quittent l'Allemagne. Et malheureusement, les directives de ce comité national vont s'aligner sur la politique française de l'époque qui, en réalité, va plus vouloir trier ces réfugiés que réellement les secourir. C'est-à-dire que on est juste après la crise économique, et donc pour le gouvernement français de l'époque, la question va être de voir même expulser, on en parle très peu, mais il y a eu plusieurs centaines de d'expulsions vers l'Allemagne, de gens qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient politiquement persécutés ou qui n'avaient simplement pas les ressources. C'est-à-dire que tout se confond. Un indésirable, ce mot qui va apparaître plus tard dans les textes de loi, c'est simplement quelqu'un au final qui peut peser sur l'économie française. Et donc, les Israélites qui gèrent ce secours-là vont s'aligner sur cette politique-là. L'aide va vite être restreinte. Et Hannah Arendt va dénoncer ce manque de solidarité entre juifs.
Oui, alors, vous voulez ajouter quelque chose, Martine Lebovici?
Oui, parce que le titre du livre de Marina, c'est « Paria ». Et c'est vrai que cette notion de paria est une notion très importante dans la pensée d'Arendt. Alors, vous avez évoqué la distinction ou l'opposition paria parvenu, peut-être on peut revenir sur ce que ça
d'un
veut
mot,
dire.
Parce d'un mot, parce que sinon, on a plein d'autres choses qu'il faut qu'on évoque.
Oui, bon, si vous voulez, l'émancipation des Juifs, ça a été l'égalité civique qui, en principe, devait être une émancipation complète où les Juifs allaient pouvoir être intégrés enfin dans la société. Mais les sociétés du 19e siècle, en même temps, étaient des sociétés, enfin en Europe, qui, dans lesquelles l'antisémitisme se développait. Et donc vous aviez une partie des Juifs qui, malgré tout, ont bénéficié de conditions économiques pour pouvoir sortir de leurs conditions, de faiblesse économique, et qui en même temps pensaient être intégrés, mais avec l'antisémitisme, se retrouvaient dans un espèce de vide social. Et d'un autre côté, vous aviez des apports constants d'émigration venant des pays de l'Est la plupart du temps, de gens qui, effectivement, n'étaient pas, des bourgeois, qui étaient plus pauvres, qui arrivaient avec aussi, qui étaient plus religieux, etc. Et donc, vous aviez une opposition qui se faisait entre ceux qui arrivaient en étant plus pauvres et qui avaient besoin de secours, et des gens qui étaient, disons, plus intégrés, hein, étaient aussi ceux qui aidaient. Et le problème pour Arendt et pour Bernard Lazare, c'est que cette relation philanthropique d'aide est aussi une relation de domination, parce que ça met les gens dans une demande ou dans une dépendance. Et donc, c'est ça Paria parvenu. Mais à partir de la situation de Paria, il y a une possibilité justement de prendre conscience de ces contradictions et de vouloir une dignité, ouais, en tant que juif dans ces situations compliquées.
Martine Lebovici et Marina Touyez, vous êtes donc les invités de L'Heure Philo et nous évoquons la figure d'Hannah Arendt.
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde, ce qui palpite, gronde, j'adore le monde. J'adore le monde, la pluie qui vient du ciel tombé dans l'oubli. J'adore la nuit, la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit, y'a rien de plus sans cesse, tu décolles. Seul bémol, quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, tout petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque, exactement juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où, à côté de la plaque, de couac en couac, d'échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break, n'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek, le monde faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec tout petit, petit, petit. Tout petit, tout petit, petit. Faut faire avec le monde. Avec tout petit, petit. Tout petit, petit, petit.
C'était Bertrand Belin avec les Limignanas. Raymond Aron, c'est une archivina qui date de 1969, un certain regard. Raymond Aron, philosophe, sociologue, aussi politologue, historien, journaliste bien connu du grand public.
J'ai, comme vous le savez, j'ai vécu en Allemagne deux ans et demi, entre 1931 et 1933, et j'ai été profondément marqué par mon séjour en Allemagne.
Vous étiez où, à Berlin ?
D'abord, j'ai été lecteur à l'Université de Cologne, et puis ensuite, j'ai été à la Maison académique française de Berlin. Et j'ai été marqué par mon séjour allemand d'une manière souvent ignorée. J'étais sorti de la formation intellectuelle française en bon idéaliste, en bon naïf, inconscient de la politique, de ses rudes nécessités. Et j'ai découvert la politique en voyant la montée de l'hitlérisme. Ce qui m'a donné ce que d'aucuns appellent mon scepticisme, d'autres mon cynisme, d'autres mon réalisme. À mon sens,
votre pessimisme aussi.
Pas pessimisme, mais j'ai découvert que l'homme était capable d'atrocités. Entre 1930 et 1933, j'ai renoncé à mes aspirations métaphysiques, j'ai renoncé à la méditation sur les sciences de la nature, convaincu que ma formation mathématique initiale était insuffisante, et je me suis décidé à réfléchir sur les sciences sociales, ou plus exactement, sur la conscience que nous prenons de la réalité historique et les conditions dans lesquelles nous en prenons conscience. Au fond, j'ai commencé mon dialogue avec le marxisme à l'époque.
Vous partez à Londres parce que, comme juif, vous ne voulez pas rester dans l'Europe dominée par Hitler, ou est-ce parce que vous voulez continuer la guerre ? Ou est-ce que ça se
met en... Si je vous disais que je partais parce que j'avais peur, je pense que je serais trop sévère pour moi-même. Si je vous disais que je suis parti pour continuer la guerre, j'aurais l'air de jouer au héros. Finalement, vous pouvez choisir. Personnellement, je pensais ceci. L'Angleterre continue la guerre. Je vais être du côté de ceux qui continuent la guerre. Alors, quant à l'inconscient, chacun est libre de l'interpréter à sa façon. Et j'ai horreur soit de m'accuser, soit de me justifier, parce que je ne sais pas comment je pourrais le faire.
Raymond Aron, qui a renoncé à des aspirations métaphysiques, est-ce que ça rejoint, selon vous, un petit peu Hannah Arendt, qui fuit quand même les discussions un peu hors sol des théoriciens, et qui pense qu'il faut, il vaut mieux passer par la terrible réalité pour interroger le monde ? Marina Touyez.
En tout cas, ils se rencontrent au moment où Raymond Aron et Hannah Arendt se rencontrent à Paris. C'est l'une des rares amitiés qu'elle va avoir avec un intellectuel français. Et elle est à ce moment-là assez écœurée par le milieu intellectuel. Elle le dira très très fermement et très clairement. Notamment parce qu'elle a connu le ralliement de beaucoup de ses proches intellectuels allemands au nazisme, dont Heidegger, dont Benno von Wiese. Et elle arrive en France en ne voulant plus rien avoir à faire avec cette société. Mmh. Et donc son mari, lui, essaie plutôt d'intégrer cette société d'intellectuels. Ils vont pouvoir assister à des cours à la Sorbonne, etc. Ils vont côtoyer Sartre, Simone de Beauvoir. Mais elle va se lancer dans le travail social, sioniste, dans des structures comme agriculture et artisanat et la LIA des jeunes, pour combattre Hitler avec ses armes, c'est-à-dire sauver des Juifs qui quittent l'Allemagne. Et c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose, un lien qui va se faire quand même avec Raymond Aron, qui... lui était d'origine israélite. Je voudrais quand même reprendre un petit peu mes propos que j'ai tenus tout à l'heure sur les Israélites, parce que comme on a très peu de temps, c'est, du coup, ça donne des propos assez caricaturales. Hein. C'est toujours compliqué quand on a un peu de temps comme ça. Mais en tout cas, Raymond Aron, lui aussi, a été critique avec le comité national, en tout cas, de secours. Et Arendt lui a su gré toute sa vie d'avoir été un des premiers à tendre la main aux réfugiés allemands. C'est ce qu'il a fait. Il s'est noué aussi d'amitié avec Erich Weil, qui était le mari de la meilleure amie d'Anna Arendt, Anne Weil. Ils sont tous à Paris. Et Raymond Aron va avoir une place personnelle, alors que leurs théories politiques vont être très différentes par la suite, après.
Mais ils vont garder des relations après.
Beaucoup d'estime, beaucoup d'estime. Et il va faciliter aussi l'édition d'Arendt.
On peut ajouter que c'est Raymond Aron qui, le premier, a fait traduire la première partie des origines du totalitarisme. C'est-à-dire que c'est par lui que son œuvre, enfin les origines du totalitarisme, ont été traduites en France.
Donc
même si
on peut dire que c'est l'œuvre majeure d'Anna Arendt, ou...
C'est l'œuvre, c'est l'œuvre qu'il a fait connaître et qui a été publiée en 1951 aux États-Unis et qui reprend, qui est le résultat au fond de toutes ces années d'exil depuis 1933 et tout ce qu'elle a pu passer par la suite.
Ayant été apatride, puisqu'elle a été apatride pendant des années, puisqu'elle a été déchue de sa nationalité allemande, qu'elle n'a pu récupérer sa nationalité que bien une fois qu'elle est
en 1951.
Qu'en 51.
Au moment de la publication des origines.
Et alors, il y a quand même une figure dont je voudrais qu'on parle, et j'en reviens parce que je suis têtue à mon 10 rue Dombasle, c'est Walter Benjamin. Parce qu'alors lui, c'est parce que la plaque, elle porte son nom, et il y a écrit en dessous traducteur de Proust et de Baudelaire, a vécu ici, donc il y a vécu pendant 3 ans, je crois. Enfin, je sais plus exactement les dates.
Oui,
peu importe.
Lui...
Enfin, la plaque, et peut-être il faudrait qu'il y ait une plaque aussi.
Il est arrivé fin janvier 1938.
Ouais,
lui,
c'est ça.
Audi rue Dombasle. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas parlé du coup de réellement de ce mot tribu, de ce qui s'est
absolument.
Joué à cet endroit, ou au moins dans le 15e arrondissement.
Lui, il était philosophe, critique d'art.
Oui. En réalité, le rue Dombasle, ça commence plutôt avec Fritz Frenkel. Je vais avoir l'impression de ne pas vouloir parler de Walter Benjamin, mais Fritz Frenkel était un ami très proche de Benjamin. Ils s'étaient rencontrés à Berlin à un séminaire de psychologie. Lui, Fritz Frenkel, c'est quand même un personnage très intéressant. C'est un psychanalyste de génie qui, à Berlin, avait un cabinet pour les grandes familles bourgeoises dont les rejetons étaient parfois alcooliques, puisqu'il est spécialiste dans l'addiction. Et alors, il avait ce cabinet qui avait vraiment pignon sur rue. Puis à côté de ça, ça lui servait à faire des dispensaires pour soigner les addictions de gens qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner autrement. Donc, il a participé à la fondation.
Il y a une
fondation.
Photo de lui, d'ailleurs, dans votre...
Oui,
dans
de Fritz Frenkel. Et là, en plus, il a vraiment la tête du savant fou. Parce que, bon, en plus, il se trouve qu'il expérimentait sur lui-même, a priori, la morphine, le hashish, etc. Et ils vont continuer, Audi rue Dombasle, ces expérimentations qu'avec Walter Benjamin, ils avaient déjà commencé à Berlin.
Benjamin dit Benji.
Il dit Benji, ils disent mon vieux aussi.
Ouais.
Ils sont tous un petit peu des surnoms.
Ils étaient très proches, Arendt et lui.
Arendt et Walter Benjamin, oui. Ouais. Alors, Fritz Frenkel, il fait aussi le lien avec Heinrich Blücher, parce qu'Heinrich Blücher était l'assistant de Fritz Frenkel. Donc, sans doute, Fritz Frenkel, lui, il est le premier arrivé au 10 rue Dombasle en 1934. Donc, ils se retrouvent tous un petit peu comme ça, au départ par Fritz Frenkel. Et donc, Walter Benjamin et Anna Arendt se sont rencontrés par le premier mari de Anna Arendt, Günther Stein, qui était le cousin de Walter Benjamin. Donc, ils se retrouvent. En fait, l'exil parisien, ça va être... la chance pour ces personnes de se rencontrer. C'est les premiers qui fuient Hitler, c'est des personnalités assez courageuses, assez anticonformistes, assez intelligentes, assez incroyables et parfois assez hurluberlues aussi. Et donc ça va créer une espèce de tribu fantasque, mais très libre aussi.
Ils se disaient beaucoup de choses, même s'il n'y avait rien dans les assiettes, quoi.
Ils se disaient beaucoup de choses. Alors à ce moment-là, il y a déjà un petit peu plus, vers 1938, il y a déjà un petit peu plus, parce qu'Anna Arendt, justement, a trouvé du travail. Walter
mais
Benjamin,
c'était compliqué.
C'est
aussi de trouver un travail, parce que si elle avait pas de carte d'identité, sans carte d'identité, pas de carte de travail, sans carte de travail,
oui.
Pas de carte d'identité, et en plus les papiers d'identité étaient très coûteux, donc de toute façon il fallait de l'argent.
Oui, il y a une série de mesures à partir de 34-35 qui sont clairement anti-réfugiés, pour donner des gages à la population française que les réfugiés vont pas piquer le travail, en fait.
Ouais.
Donc il y a cette espèce d'administration kafkaïenne qui va vouloir que pour avoir un travail vous ayez le certificat de travail, mais pour avoir le certificat de travail il vous faut un contrat de travail, enfin bon bref. Donc tout a été fait pour verrouiller l'accès au travail des réfugiés. Walter Benjamin, le collaborateur de l'école de Francfort, qui est à ce moment-là en exil aux États-Unis, mais il lui verse un petit salaire pour des publications, pour veiller aussi à la visibilité de l'école de Francfort en France. Et c'est sa seule source de revenus parce qu'il n'arrive pas à publier dans les revues françaises.
Et elle, après, Arendt, elle s'est battue, parce que lui est mort, enfin bref, il s'est suicidé, mais on n'a pas le temps d'en parler plus avant là, mais elle s'est battue toute sa vie pour qu'il soit publié, en fait.
Oui, c'est la continuité de cette amitié exceptionnelle qu'ils vont vivre au 10 rue Dombasle. Et en réalité, si je reviens à votre question du tout début d'émission, Hannah Arendt parle d'années assez heureuses, il y a eu aussi un certain bonheur. Parce que le fait d'avoir été paria, pourquoi le livre s'appelle aussi paria, parce qu'il y a de multiples raisons pour ce titre, c'est que Arendt parlera plus tard de ce don qui est donné au peuple paria, c'est-à-dire une chaleur exceptionnelle, le fait de connaître une fraternité exceptionnelle parce que justement on est paria, parce qu'on n'a plus de famille politique, on n'a plus la langue maternelle, on n'a plus de patrie et on est l'autre devient la seule garantie de la continuité de soi. Et
je peux exister parce que l'autre existe. Et me
quand on n'a pas de meubles, dit-elle, on ne traite pas les autres comme des meubles. Il y a tout ce rapport très intéressant entre le fait d'être bohème et le fait de pouvoir, du coup, vivre une amitié exceptionnelle. Et elle aimait ce vers de Goethe, « Les hommes ne se connaissent pas entre eux, seuls se connaissent les galériens qui peinent à le temps enchaînés au même banc. Là, personne n'ayant rien à demander et n'ayant rien à perdre, on se connaît. » Le fait d'être paria, ça va aussi vouloir dire connaître cette fraternité exceptionnelle comme ils l'ont vécu au 10 rue Dombasle.
Et il y a aussi ces vers de Brecht que vous citez, qu'elle connaissait par cœur et qu'il disait les uns les autres que l'eau qui doucement effleure la pierre énorme, avec le temps en vient à bout, tu vois, ce qui est dur a le dessous. Moi, j'en ai des frissons en lisant ça. Mais il y a donc quelque chose dans cette solidarité, évidemment de politique, mais là, de philosophique, non ? Réellement, c'est philosophique comme vision de l'être et d'être au monde.
Bah, c'est Martine Bovici. Plus exactement, c'est à partir de cette expérience-là que de la pensée peut naître. Et justement, l'intérêt, enfin, la pensée d'Arendt s'irrigue à cette expérience-là, mais sa pensée politique aussi, hein, essentiellement, puisque ce qu'elle a pensé, c'est que il fallait justement repenser la question politique après les événements, disons, aussi bien du nazisme que du stalinisme. Et alors, peut-être pour revenir au paria, la partie de sa pensée politique qui est la plus directement liée à ça, c'est sa question du droit d'avoir des droits. C'est-à-dire qu'elle fait, elle comprend que les réfugiés, les apatrides, c'est une catégorie nouvelle par rapport aux exilés traditionnels et par rapport à la question du droit d'asile. Parce que le droit d'asile, jusque-là, est un droit qui concerne des individus. Or, il y a eu des situations après la Première Guerre mondiale où des masses de gens, des masses d'individus ont été chassés de leur pays et acceptés, tolérés dans d'autres sans pouvoir revenir en arrière et surtout sans être protégés par aucun gouvernement. Et on aurait pu penser qu'ils étaient dans la situation d'être des hommes, que des hommes, et qu'en tant qu'hommes, que des hommes, ils sont justement le moment, enfin l'occasion de faire valoir les droits de l'homme. Or, ce qu'elle comprend, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un homme que d'être réduit à être un homme et rien qu'un homme. Ça veut dire ne pas être protégé par la loi d'aucun pays et d'être hors la loi. Et quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le pays d'où on vient, dont on n'est pas citoyen, donc les lois ne sont pas faites par nous, eh bien, le sort qui est le sort de ces masses de gens est livré à l'administration et à la police. Et donc, ils ont affaire à l'administration et à de l'arbitraire, d'une certaine façon. Et comme on ne sait pas très bien quoi en faire, on a plutôt tendance à les regrouper dans des camps d'internement. Et il ne faut pas oublier que c'est la Troisième République qui a ouvert les premiers camps d'internement pour les réfugiés espagnols.
Elle est d'ailleurs allée à Gurs elle-même.
Voilà. Et je crois que toutes ces analyses que fait Arendt sur la question du des conditions dans lesquelles les droits de l'homme peuvent être respectés sont extrêmement importantes pour le monde d'aujourd'hui.
Mais
où il y a des phénomènes de gens chassés de chez eux, de réfugiés, dans le monde entier, et ça ne s'est pas arrêté.
Et ce sont des conditions inhumaines qui, finalement, permettent à l'humanité de surgir, en quelque sorte. À la véritable humanité que chacun porte en soi.
En tout cas, une chaleur. En tout cas, c'est de ça qu'elle parle, une fraternité exceptionnelle. Parce que l'autre, c'est au même moment, ils sont déchus de leur nationalité d'ailleurs.
Oui,
elle, en 1937.
Ça ne suffit pas. Politiquement, ça ne suffit pas, cette chaleur, cette entraide. C'est très beau, c'est humain, c'est magnifique, il faut ça. Mais ça ne suffit pas à protéger les gens.
Bien sûr.
C'est ça. Et pour elle, c'est pour ça que la question politique est fondamentale pour elle.
Et d'ailleurs, ce qui va être le plus terrible après, ça va être leur dispersion. C'est-à-dire que quand ils sont mis en camp, on doit aller là très vite, qu'ils en sortent, mais que la France est devenue une souricière à cause de la clause 19, ce qui va être, c'est-à-dire le fait que Pétain ait donné son accord pour livrer à l'Allemagne tous ceux qu'elle demandera, à ce moment-là, je le raconte, dans leur itinéraire, il y a souvent des moments où ils vont devoir se séparer pour préserver leur chance de survie à chacun.
Et c'est un arrachement.
Ça va être terrible.
Vous êtes bien sur France Inter, Karen Dalton, Little Bit of Rain.
If I should leave you, remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
À la base de sa pensée et de ses écrits, il y a évidemment le sionisme. Est-ce qu'il y avait un rêve sioniste chez Hannah Arendt, Marina Touyez?
Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'un rêve sioniste. Déjà, il faudrait décrire ce qu'est un petit peu le sionisme. Ce que je peux dire sur ses propres convictions, elle, ce qu'elle constate dans les années 30 en Allemagne, c'est que l'assimilation des Juifs a échoué. Le sionisme de Hannah Arendt, au moment où elle va rentrée en politique, c'est-à-dire en 1933, au moment où elle va résister à Hitler, c'est l'aboutissement pour elle d'une réflexion qui l'amène à être convaincue que l'émancipation des Juifs de la fin du XVIIIe siècle est un jeu de dupes, est une arnaque en gros, pour faire simple, et que en réalité, la société allemande, mais elle le pense aussi de la société française, sont restées intrinsèquement antisémites. Et que donc, en voulant s'assimiler, les Juifs vont à l'encontre de leur propre identité, ils vivent des souffrances, etc. Et donc, il y a plusieurs choses qui vont l'amener à ces conclusions-là. Elle va étudier Raël Varnagen, la vie de Raël Varnagen, qui était une salonnière, c'est-à-dire elle tenait des salons.
Mais elles se sont pas connues, hein, je crois.
Elles ne se sont pas connues. Non, c'est pas la même période. Raël Varnagen, c'est début du 19e. Mais elle a étudié cette femme, sa correspondance, son journal intime, et elle voit quelqu'un qui s'était fait baptiser, qui s'était converti au christianisme, et qui va tenter toute sa vie de s'assimiler en Allemagne, et en réalité qui va échouer, qui va en souffrir, qui va aller à l'encontre de son identité. Au même moment, quand elle étudie Raël Varnagen, les nazis enchaînent des victoires électorales en Allemagne. Le sionisme de Hannah Arendt, c'est ça au départ, c'est de dénoncer, et elle-même venait d'une famille, on dit, juive assimilée, c'est-à-dire d'une famille profondément allemande avant tout, assez laïque d'ailleurs d'un point de vue religieux, et qui pensait que on pouvait vivre de manière égalitaire en tant que juive en Allemagne. Elle va faire une rupture avec ça et dénoncer cette assimilation-là. C'est ça son sionisme, et le sionisme de l'époque.
C'est une part de son sionisme, effectivement, mais l'autre aspect, la raison pour laquelle elle rejoint, elle s'allie avec les sionistes, elle n'a jamais été encartée d'une certaine façon, c'est qu'elle pense que il y a cette critique de l'assimilation, et il y a aussi le fait qu'à son avis, les sionistes sont les premiers à prendre à comprendre que la question de l'antisémitisme est une question politique. Et que c'est la condition des Juifs en Europe après l'émancipation et le développement de l'antisémitisme est lié à un antisémitisme politique qui fait que dans les conditions du 19e siècle, à chaque fois que des problèmes se posaient, au niveau de l'État, les Juifs étaient assimilés à des soutiens de l'État. Et que, dans cette mesure-là, il fallait penser politiquement la question juive. Et en plus, les sionistes étaient les seuls à être organisés. Et on ne peut pas agir tout seul. Et donc, pour cela, il faut rejoindre des gens qui s'organisent pour l'action. Mais à part ça, Arendt avait un certain nombre de critiques à faire au mouvement sioniste, sur lesquelles on n'a peut-être pas le temps maintenant de développer.
En deux minutes, ça va être difficile.
Mais en tout cas, ce que je peux dire maintenant, c'est que malgré toutes les critiques qu'elle a adressées au sionisme, au mouvement sioniste, et elles sont parfois très rudes, elle n'a jamais voulu s'associer avec quelque mouvement anti-sioniste que ce soit. C'est-à-dire qu'elle se considérait, selon ses termes, comme une patriote juive et qu'elle estimait que, à l'intérieur d'un mouvement politique comme le sionisme, comme tout autre mouvement politique, il pouvait y avoir des dissidences. Et elle amenait une contradiction, une conflictualité qui fait partie de sa conception de la politique.
On l'a entendu au début de l'émission citer René Char, « Notre héritage n'est précédé d'autres qu'un testament ». J'ai trouvé aussi cette très belle phrase, je l'ai lue chez vous, « Il vaut mieux ne jamais se sentir vraiment chez soi nulle part, ne faire vraiment confiance à aucun peuple, car il peut en un instant se transformer en masse et en instrument aveugle de mort. »
Oui, c'est directement l'expérience qu'elle a fait de ce qu'elle a vécu en Allemagne et puis en France, parce qu'encore une fois, en un instant, il se retrouve dans une souricière en France, et c'est une phrase très forte. Ça montre aussi que pour elle, et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé le mot de paria, ouais. Elle restera toute sa vie infréquentable. Il y avait une leçon à tirer de ces années où ils ont été paria, c'était de ne pas tenir aveuglément à un peuple, à une nation, à une famille politique. Voilà, mais peut-être contrairement à l'amitié, oui, peut-être que l'amitié c'est la seule patrie et l'amour.
On peut peut-être...
Oui, en un mot, vraiment, parce que la nuit c'est fini.
Citer cette réponse qu'elle faisait à Gershom Scholem, qu'il accusait, qui lui reprochait de ne pas aimer le peuple juif. Elle disait « Je n'aime aucun peuple, je n'aime que mes amis ».
Merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir évoqué cette grande dame. Paria, Anna Arendt et la tribu en France, 1933-1941. Marina Touyès, c'est à l'échappée. Et il y a ce numéro de l'Erne sur Arendt, Martine Libovici. Vous l'avez donc...
Europe, on est deux.
Vous êtes deux, vous l'avez, oui. Voilà. Et puis, il y a aussi Anna Arendt, Karl Jaspers, à propos de l'affaire Eichmann. C'est également au cahier de l'Erne. Merci à toutes les deux.